L'Église de la Victoire du Québec vous présente un message de foi et de victoire par le pasteur Joel Spinks. Nous prions que vous recevrez la révélation qui vous permettra de découvrir et de saisir la vie abondante prévue par Dieu pour ses enfants.
Gloire à Dieu. Amen. Êtes-vous prêt maintenant à aller dans la parole de Dieu? Amen. J'aimerais ça vous inviter ce matin à juste acclamer le Seigneur parce qu'on est conscient qu'il est ici parmi nous aujourd'hui. Amen. Gloire à Dieu. Là, je vais vous demander de vraiment l'acclamer comme si vous croyiez qu'il était ici. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur Dieu. Amen. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Père éternel, nous venons devant toi aujourd'hui au nom de Jésus, le nom qui est au-dessus de tous les noms. Nous te remercions, Seigneur Dieu, pour ta parole. Nous te remercions parce que tu es un Dieu de victoire. Et aujourd'hui, nous tournons nos regards vers ta parole et nous te remercions, Seigneur Jésus, parce que nous quittons cette place exhortés, encouragés dans tes voies. On te remercie pour la présence de ton Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité. On a pris au nom de Jésus. Amen. Amen. Aujourd'hui, le terme du message, c'est Gédéon, ce vaillant héros insoupçonné. Amen. Et le mot insoupçonné, on peut le définir comme ceci, que l'on n'imagine pas. Ou trois synonymes, c'est quelqu'un ignoré, inconnu, inimaginable. Quelqu'un ignoré, inconnu. La semaine passée, j'ai enseigné sur Néhémie. Et la reconstruction des murailles de Jérusalem. Vous en rappelez? Amen. Moi, je m'en rappelle. Il y en a d'autres, vous en rappelez peut-être? On a parlé de Néhémie, comment Dieu nous donnait, que Dieu nous donnait dans cette maison spirituelle. Il nous appelait à rebâtir les murailles dans la francophonie, de restaurer l'image de Dieu, que ce Dieu est un bon Dieu. Amen. On croit tout ça aujourd'hui. Si on est ici, c'est parce qu'on croit dans la bonté de Dieu. Et on a dit que c'est important qu'on puisse comprendre la vision que Dieu nous a donnée et la saisir par la foi et dire « Oui, moi, je m'engage devant Dieu solennellement que je veux faire partie de ces soldats, je veux faire partie de cette armée qui va rebâtir, peu importe le prix personnel, peu importe les efforts que je vais y mettre, mais je vais être engagé fidèlement afin que cette vision puisse vraiment s'accomplir au nom de Jésus. » Vous vous en rappelez? Amen. Mais comme je me préparais cette semaine, le Seigneur a déposé sur mon cœur Gédéon. Et pourquoi Gédéon? Parce que je crois que plusieurs d'entre vous, vous avez cru au message la semaine passée. Vous avez dit, oui, certainement, je crois dans la mission, je crois que c'est important, je crois dans cette vision, oui, je m'engage. Mais par après, l'ennemi est venu puis vous a dit, c'est vrai, c'est une belle vision pour eux, mais pour toi, t'es qui toi? Avez-vous déjà peut-être pensé à des choses comme ça? Vous pensez que ça venait de vous, mais en fait, ça vient de l'ennemi. T'es qui, toi, être un soldat dans l'armée de ce grand Dieu-là? T'es qui, toi? T'es personne d'important. T'es juste un « nobody » en anglais. T'es qui, toi? Et souvent, qu'est-ce qui se passe? C'est que l'ennemi, il vient s'infiltrer comme ça dans nos pensées pour nous dire que Dieu va se servir des autres, mais pas moi. Et aujourd'hui, ce qu'on doit faire, afin de vraiment rentrer dans cette vision, on doit comprendre que nous sommes premièrement des enfants de Dieu. Et si je suis un enfant de Dieu et Dieu m'a adopté dans sa famille, en même temps, je suis un soldat du roi des rois. Je suis un ambassadeur et je ne suis pas un nobody. Amen. Et Dieu aujourd'hui veut que vous puissiez comprendre que vous êtes un quelqu'un en Jésus. Pas en vous-même, pas tout seul, pas en dehors de Christ. En dehors de Christ, c'est vrai, nous sommes des pauvres pécheurs. Mais à cause du Seigneur Jésus, il nous a lavés, il nous a purifiés et nous sommes devenus des saints de l'Éternel et nous avons toute l'autorité sur cette terre au nom de Jésus. Nous pouvons marcher sur les œuvres de l'ennemi et empêcher le royaume de l'ennemi de s'infiltrer dans notre Église, s'infiltrer dans nos vies parce que Dieu nous a donné l'autorité pour nos propres vies au nom de Jésus. Amen. Donc, notre identité, oui, c'est cette compagnie extraordinaire, comme nous avons vu, mais c'est une compagnie de réformateurs, des gens simples et humbles, mais à cause de cette simplicité et à cause de cette humilité, nous sommes qualifiés au nom de Jésus pour voir un réveil ici. Amen. Donc, je vais vous inviter ce matin à tourner dans Juges chapitre 6 et on va commencer au premier verset. Juste vous laisser savoir que lorsque j'enseigne, je me sers de plusieurs versions de la Bible. Des fois, c'est français courant, des fois, c'est Louis II, Bible du Sommeur. Si jamais vous trouvez je vois pas ce verset-là, bien, vous pourrez prendre en note les versets et puis à la maison faire des recherches, mais je peux vous dire, je vous garantis, c'est toute la parole de Dieu. Je n'ai rien inventé au niveau de Gédéon. OK? Donc, si jamais vous suivez mal, je vais prendre la peine habituellement de dire la version, mais des fois, je choisis des versions différentes pour vous aider vraiment à comprendre le sens. Il y a des versions, des fois, c'est plus clair, c'est plus facile à saisir. Alors, c'est pour ça que je me promène des fois d'une version à l'autre, mais gloire à Dieu, on grandit tous puis on avance. Amen? Donc, Juges chapitre 6 et le verset 1, quand vous êtes là, vous pourrez dire Amen. Amen. Juges chapitre 6, 1. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins, des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Vous remarquez ici, le peuple d'Israël avait peur. Le peuple d'Israël avait peur de cette tribu, les Madianites, un peuple méchant qui s'en venait détruire la terre d'Israël. Et on va voir la souffrance d'Israël d'ici quelques instants. Mais le peuple d'Israël était dans cette situation de crainte. Vous savez que la crainte, c'est l'opposé de la foi. Et la crainte neutralise l'enfant de Dieu. La crainte neutralise la puissance de Dieu. Vous savez ça? Amen. Donc, l'ennemi veut vous garder dans la crainte. Si vous faites dans la crainte, il vous a vraiment à l'endroit parfait pour lui. Parce que c'est impossible pour vous de vivre le miracle de Dieu dans vos vies quand vous êtes dans la crainte. Amen. Mais si vous choisissez la foi, pas le feeling, pas le sentiment de la foi, mais vous choisissez la foi au nom de Jésus, l'ennemi ne peut rien vous faire. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Mais ici, nous voyons les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Avant ça, il y avait eu 40 ans de paix ici en Israël. Ça allait bien, mais tout d'un coup, quand Déborah est morte, là, le peuple d'Israël, ils ont dit, bon, ben finalement, on peut peut-être commencer à pécher. On peut peut-être commencer à revivre des choses du passé. Et puis là, ils se sont mis à vivre toutes sortes de péchés, surtout l'idolâtrie. Et vous savez, l'idolâtrie, c'est de mettre des choses en avant de Dieu. Le peuple d'Israël pouvait dire, nous louons l'Éternel. Oui, mais nous louons également Baal. Et peut-être certains d'entre vous vous dites, ben moi j'aime ça louer Dieu, mais moi aussi je veux louer d'autres choses dans ma vie. Par exemple, c'est mes désirs personnels au lieu des désirs de Dieu. Peu importe, on voit ici qu'il y a un coût. Il y a un coût au péché. Et le coût ici, c'est dit, les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel et l'Éternel les livra. Dites, les livra. Et le mot ici, les livra, c'est important à comprendre, c'est que ce n'était pas le cœur de Dieu que le peuple d'Israël soit dans la souffrance. Ce n'est jamais le cœur de Dieu pour un enfant de Dieu d'être dans la souffrance. Cependant, il les livra aux Madianites parce que c'était mieux qu'ils souffrent sous la main des Madianites que qu'ils soient perdus pour l'éternité. Et des fois, si ça va mal dans nos vies, si des fois on est peiné puis il y a des choses terribles que Dieu permet. Oui, Dieu permet. Peut-être c'est parce que des fois on est dans le péché et Dieu permet cette chose. Parce que si on est vraiment désespéré, on va crier vers Dieu et on va revenir à lui. Et c'était le cœur de Dieu et c'était par la grâce de Dieu que Dieu a permis cette souffrance-là. Amen. Ici, nous lisons, l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. Imaginez 7 ans de souffrance. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Imaginez, au lieu de trouver leur refuge en Dieu, ils trouvaient leur refuge dans la roche. Verset 3, ici nous voyons la souffrance d'Israël. Quand Israël avait semé, pas seulement dans le péché, mais littéralement dans une terre, il avait semé. Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient. Ils marchaient contre lui, contre Israël. Ils campaient en face de lui, détruisaient les productions du pays. Imaginez, Israël, ce peuple a travaillé, ils ont semé. Et puis là, quand c'était le temps de la récolte, les méchants madianites venaient et détruisaient la récolte. Imaginez, c'est ça que ça fait le péché. C'est que quand nous semons, on fait un travail, mais au lieu de vivre la récolte de ce travail-là, l'ennemi vient et puis mange notre récolte. Ça, c'est le fruit du péché. Et des fois, il y a des gens qui disent, ben moi, je sais que Dieu dit telle chose dans sa parole, mais moi, je veux vivre ma vie à ma façon. Mais je peux vous dire, vous êtes un perdant quand vous faites votre vie à votre façon. Vous êtes un perdant, vous allez vous faire voler. Il y a un coût au péché. Il y a une certaine jouissance pendant un temps, mais il y a un grand coût. Et le coût éternel, final, c'est l'éternité séparée de Dieu dans un lac de feu. On ne dit pas gloire à Dieu pour ça, on ne se réjouit pas de ça. Non, Dieu, il s'est déplacé du ciel à la terre pour venir nous sauver, pour nous racheter, pour nous épargner l'enfer, parce qu'il nous aime. Mais il y a toujours une conséquence au péché, puis on voit ici Israël qui s'était détourné de Dieu. Ça dit au verset 4, « Ils campaient en face de lui, détruisaient les productions du pays jusque vers Gaza, et ne les laissèrent en Israël ni vivres, ni provisions, ni brebis, ni bœufs, ni ânes, car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. » Donc, ils se campaient devant Israël ici, là. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux. Ils venaient dans le pays pour le ravager. Imaginez, vivre le ravage, l'ennemi vient et attaque. Et pourtant, Dieu a permis cette chose-là. On dit, mais Dieu est bon. Oui, Dieu, dans sa bonté, il nous aime tellement qu'il va permettre à l'ennemi de venir nous ravager si on le permet. Si on veut marcher avec Satan, il va nous laisser faire, enfant de Dieu. Savez-vous ça? Si vous voulez marcher avec Satan et le suivre et le servir, et Satan est votre idole, peu importe, on dit Satan, mais ça peut être d'autres choses dans vos vies que vous servez autre que Dieu, bien Dieu va permettre que vous puissiez voir la différence entre le royaume de Dieu et le royaume des ténèbres. Amen. Vous allez voir une différence. Ça dit, j'étais mieux quand je servais Dieu. J'étais mieux quand je servais Jésus. J'étais en santé quand je servais Jésus. Je vivais des bénédictions. Et maintenant que je sers Satan et je marche main dans la main avec Satan, voici tout ce qui m'arrive. Oui, c'est permis de Dieu. Amen. C'est ça que la Bible dit. Ici, on voit finalement, le peuple d'Israël, il se réveille en partie. Il se réveille au verset 6, Juges 6:6. Israël fut très malheureux à cause de Madian. Et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Mais c'était pas un cri de repentance. C'est un cri d'une écœurantite. Ils criaient, à l'aide! À l'aide! Mais ils disaient pas, Seigneur, on se repent. Vous allez voir plus tard. Mais il était réduit à une grande misère. Une grande misère. Pourquoi des fois on doit attendre d'être dans une grande misère avant de se tourner vers Dieu? Pourquoi que ça l'arrive? Des fois, on est comme ça, on marche dans une vie chrétienne, puis après un bout de temps, on arrête de prier, on arrête de lire la parole, on se détourne du Seigneur, et tout d'un coup, il y a un grand problème dans notre vie, et là on dit, « Oh Seigneur, aide-moi! » Pourquoi que ça prend ça pour qu'on se retourne vers le Seigneur? Ça ne devrait pas être comme ça, enfant de Dieu. On devrait vouloir servir le Seigneur de tout notre cœur dans les bons temps. Des fois, les gens, ils attendent un mauvais temps. Mais non, servez le Seigneur de tout votre cœur dans les meilleurs moments. Amen. 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 Qu'est-ce qui se passe? Bon, ils ont crié vers l'Éternel à l'aide. Et là, ensuite, nous voyons, Juges 6, versets 7 à 10. Dieu a répondu en envoyant un prophète. Ce prophète-là, on n'a pas son nom, on ne sait même pas c'est qui, c'était pas important. Mais Dieu avait appointé un homme de Dieu qui était là pour leur dire... Écoutez, ce qui vous arrive, il y a une raison pour tout ça. Vous êtes un peuple rebelle. Il n'a pas dit simplement, Dieu a entendu votre prière de repentance. Non, il n'y avait pas de prière de repentance, c'était juste un cri à l'aide. Il y a plusieurs personnes comme ça qui crient au Seigneur quand ça va mal. Entre autres, on sait à New York City, après que les deux tours se sont effondrées, les gens se présentaient à l'église. Là, il y avait un cri, il y avait une crainte, mais ce n'était pas une vraie repentance. Mais ici, les gens... On crie vers Dieu et Dieu a envoyé un prophète. Et puis là, il a compris, il a dit, le prophète a révélé la source des souffrances, c'était la rébellion d'Israël. Qu'est-ce qui s'est passé? On va aller au verset 11 maintenant. Je vais vous lire dans la Bible du Sommeur. Ici, au verset 11. « L'ange de l'Éternel vint s'asseoir sous le chêne qui se trouvait à Ophra, dans la propriété de Joas, un homme de la famille d'Ébiézer. Gédéon, un fils de Joas, était en train de battre le blé dans le pressoir à raisin. » Pour le cacher des Madianites. Imaginez-moi, je ne suis pas un fermier, mais je sais qu'on ne fait pas ce travail, ce genre de travail-là, dans un pressoir à raisin. Dans un pressoir à raisin, qu'est-ce qu'on va faire? On va presser du raisin. Hein? Ça fait du sens? Mais ici, il est en train de battre le blé dans le pressoir à raisin. Et quand on fait un petit peu d'études, on comprend habituellement, quand on est en train de battre le blé comme ça, on devrait faire ça dans une grande surface ici, là, une grande superficie, là où le vent peut souffler et puis enlever toutes les mauvaises choses qui n'ont pas rapport dans le blé. Alors, il travaille habituellement comme ça, mais cette fois-ci, on retrouve Gédéon, cet homme-là, caché dans un pressoir comme ça de raisin, qui là, il est caché pour ne pas être vu. Des Madianites. Ça fait du sens, hein? Si on comprend que les Madianites sont toujours là pour leur causer des ennuis, bien là, ils se retirent pour être invisibles. Et là, au verset 12, l'ange de l'Éternel lui apparut. Imaginez si c'était vous. Vous aviez peur des Madianites. Et tout d'un coup, l'ange de l'Éternel, et nous savons ici que c'est une théophanie, c'est Jésus avant son incarnation. Jésus, l'ange de l'Éternel, vous le verrez plus tard pourquoi je dis ça, au verset 14, mais maintenant au verset 12, l'ange de l'Éternel lui apparut et dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant guerrier. » Imaginez cela. Vous êtes là, vous êtes caché. Vous êtes caché en train de travailler, vous avez peur des Madianites, mais Dieu vous dit, l'Éternel est avec toi, vaillant guerrier. Imaginez. Ou dans Louis II, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Vaillant héros. Dieu dit ça de vous aujourd'hui. Vous êtes un vaillant héros, un vaillant guerrier aujourd'hui. Croyez ça. Vous dites, oui, mais je le ressens. Pensez-vous que Gédéon, cet homme caché, avait le feeling, le sentiment d'être un vaillant héros à ce moment-là? Non, certainement pas. Il pensait d'être un lâche, d'être un peureux. Et c'était vrai en plus. Il était un peureux. Verset 13, Gédéon lui répondit, « De grâce, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tant de malheur s'abat-il sur nous? Où sont donc tous ces prodiges que nos pères nous ont racontés en nous disant que l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte? En réalité, l'Éternel nous a abandonnés et nous a livrés au pouvoir des Madianites. » Est-ce que c'est la chair qui parlait à ce moment-là? Oui, on va le décortiquer ensemble. « De grâce, Seigneur, si l'Éternel est avec nous, il vient de voir ici l'ange de l'Éternel qui vient de lui dire, « L'Éternel est avec toi. » Mais voyons donc, si l'Éternel est avec moi, comment ça, moi je suis pris ici, là, comment ça, tous ces malheurs nous arrivent? Peut-être avez-vous déjà posé la question, « Pourquoi tant de choses mauvaises m'arrivent si l'Éternel est avec moi? » Ici, il dit, « Pourquoi? Puis où sont tous les prodiges, les miracles? Où c'est que ça se passe, là? Mes parents m'ont parlé de ces miracles-là, mais pourtant, aujourd'hui, on n'en voit pas. Qu'est-ce qui s'est passé? » Où sont donc tous ces prodiges que nos pères nous ont racontés en nous disant que l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte? Où? Et pourquoi? À cause du péché. Dieu ne bénissait pas. En réalité, l'Éternel nous a abandonnés. Est-ce que c'est vrai, ça, enfant de Dieu? L'Éternel les avait abandonnés? Non, c'est pas vrai, c'est Israël qui avait abandonné Dieu. Mais si en réalité, l'Éternel nous a abandonnés. Ça, c'est faux, ça, Gédéon. Et il nous a livrés au pouvoir des Madianites. Ça, c'est vrai, par exemple. Parce que vous avez abandonné Dieu, c'est ça qui s'est passé. Verset 14, « Alors l'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va avec cette force que tu as et délivre Israël des Madianites, n'est-ce pas moi qui t'envoie? » Imaginez, vas-y avec la force que tu as, Gédéon. Mais si j'étais Gédéon, je me demanderais bien, « Mais qu'est-ce qu'il voit en moi? » Moi, un pauvre peureux, caché ici, et là Dieu dit, « Vaillant héros, vaillant guerrier, va avec la force que tu as. » Quelle force? Savez-vous la force qu'il avait? L'humilité. Gédéon était un homme humble et c'est un homme qui avait continué à marcher avec Dieu, même si la multitude en Israël s'était détournée de Dieu et avait servi de faux dieux, les idoles de Baal. Peu importe qu'est-ce qui se passait, ici nous retrouvons Gédéon, un homme qui avait demeuré intègre, qui avait demeuré dans cet amour du Seigneur et qui n'avait pas plié les genoux devant Baal. Et Dieu a dit, va avec la force que tu as. Gédéon ne pouvait pas dire, ben c'est vrai Seigneur, je suis un vaillant guerrier. Il n'a pas commencé à se péter les bretelles et dire, c'est vrai, tu as bien choisi, regarde comment je suis merveilleux. Non, il dit, mais je suis qui moi? On va le voir dans les versets qui vont suivre. Je suis qui moi? Va avec cette force que tu as et délivre Israël des Madianites. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Et Dieu aujourd'hui vous dit personnellement, il dit va avec la force que vous avez, enfant de Dieu. Vas-y avec la force que tu as et délivre le peuple francophone. Amen, c'est ça que Dieu nous dit aujourd'hui. Délivre le peuple francophone. Mais je suis qui, moi, délivrer le peuple francophone? Vous allez voir, si vous êtes humble et vous réalisez que c'est absolument impossible pour nous de le faire sans Dieu, vous êtes qualifié. Amen. Moi, là, je peux vous dire, je réalise qu'en Joel Spinks, il y a zéro, rien de bon. Il n'y a rien de bon que je peux offrir à Dieu et dire, ben voici, Seigneur, je mérite que tu serves de moi. Non, la seule bonté que j'ai, c'est d'avoir été pardonné et que Jésus habite en moi maintenant. Une fois qu'on est pardonné, là, on est qualifié. Et vous savez, une des choses que le Seigneur veut vraiment souligner, c'est que le Seigneur s'apprête à faire des grandes choses parmi nous. Et je le sais, on est sur le bord, puis j'ai hâte de vous partager des choses que le Seigneur va faire parmi nous. Mais c'est conditionnel, enfant de Dieu. Savez-vous la condition? Nous devons être un peuple humble. Nous devons être humbles, nous devons être revêtus d'humilité et savoir que si le Seigneur nous favorise, si le Seigneur nous bénit, ce n'est pas grâce à nous, c'est grâce à lui. C'est grâce à son appel. Dieu a déposé un appel sur cette famille spirituelle que nous sommes aujourd'hui. Nous avons cet appel, mais cet appel-là n'est pas grâce à nous, c'est grâce à lui. Et quand les gens vont voir la bénédiction qui va se multiplier sur cette famille, les gens vont dire, mais qu'est-ce qui se passe? Notre réponse sera toujours, c'est Dieu. Amen. C'est Dieu, gloire à Dieu. La seule chose que Dieu nous demande, c'est de dire oui, oui Seigneur. On continue avec l'histoire, verset 15, Juges 6, 15. Mais Gédéon répliqua, « De grâce, mon Seigneur, avec quoi pourrais-je livrer Israël? Ma famille est peu importante dans la tribu de Manassé, et moi, je suis le plus jeune des fils de mon père. » Et la tradition disait ici, c'est que, en fait, si on était le plus jeune, on était le moins important. On était la personne dans la famille qui travaillait, qui pouvait peut-être passer la balayeuse, la personne qui faisait juste du ménage. C'était une personne qui semblait, aux yeux des hommes, comme étant une personne moins importante. Il dit, « Et moi, je suis le plus jeune des fils de mon père. » Louis II, je suis le plus petit dans la maison de mon père. Avec quoi pourrais-je délivrer Israël? Souvent, qu'est-ce qui se passe quand Dieu nous appelle à faire quelque chose? On dit, mais avec quoi, Seigneur, que je peux faire ça? Comment est-ce que je peux répondre à cet appel gigantesque que tu me donnes comme cette famille spirituelle? Qu'est-ce que j'ai à offrir, moi, Seigneur? Qu'est-ce que j'ai à offrir? Savez-vous ce que Dieu veut? Il veut des gens qui réalisent qu'ils sont en faillite sans lui. On n'a rien à lui offrir, sauf un oui. Et dit, Seigneur, en moi-même, est-ce que j'ai 10 millions à la banque aujourd'hui pour répondre à l'appel de Dieu? Si Dieu disait, ah, ben, je peux choisir monsieur Smith, on va dire Smith. J'ai vérifié son compte de banque. Il y a suffisamment d'argent pour répondre à l'appel. Donc, si on veut faire quelque chose au Québec, on va prendre monsieur Smith parce que lui, il a les moyens. Gloire à Dieu. Alléluia. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Hein? Est-ce que Dieu regarde nos comptes de banque avant de faire quelque chose? Avant de nous appeler? Non. Il regarde pas nos comptes de banque. Heureusement. Gloire à Dieu. C'est pas comme ça que ça marche. Avec quoi pourrais-je livrer Israël? Ma famille est peu importante dans la tribu de Manassé. Et moi, je suis le plus jeune ou le plus petit dans la maison de mon père. Verset 16. L'Éternel lui répondit, « Je serai avec toi. C'est pourquoi tu battras les Madianites tous ensemble. » Voyez-vous, la qualification, c'est Dieu. Si nous avons Dieu, nous avons la majorité, enfants de Dieu. Si vous avez Dieu pour vous, qui sera contre vous? Amen. Verset 17, Gédéon lui dit, « Eh bien, si réellement tu m'accordes ta faveur, prouve-moi un signe que c'est bien toi qui me parles. » Voyez-vous, c'est un homme de foi gigantesque. Hein? Des fois, on peut dire, ben, « Seigneur, ne peut pas se servir de moi parce que moi, je ne suis pas une personne de foi comme Gédéon. » Remarquez l'incrédulité de Gédéon. Ce n'est pas un homme full foi. Là. C'est un homme quand même assez terre à terre. Tu sais, c'est comme, ben, « Je suis qui? Qu'est-ce que j'ai, moi? » Puis, ben, si tu me parles vraiment, Seigneur, fais donc des signes. Là. Puis, on voit plus tard des toisons. Ici, on voit, et je parlerai pas comment être dirigé de l'Esprit de Dieu, parce que si vous voulez savoir comment être dirigé de l'Esprit de Dieu, ce n'est pas par les toisons. Nous avons son Saint-Esprit dans cette dispensation de la grâce. Amen. Vous pourrez écouter l'enseignement CD ou sur l'Internet, comment être dirigé ou comment être conduit de l'Esprit de Dieu sur le site de l'Église. Mais aujourd'hui, on veut pas parler de ça. Mais ici, on voit, il est quand même... C'est comme ça. Il est pas un homme super full foi, mais c'est une personne qui a besoin des signes pour savoir qu'est-ce qui se passe. Avec quoi? Qu'est-ce qu'on voit ici? Dans 2 Corinthiens 12, 10, pas ici dans le texte, mais dans la parole de Dieu. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Quand je réalise que par moi-même, c'est absolument impossible qu'on le fasse, c'est impossible, c'est alors qu'on devient fort parce qu'on vient de rapporter les élections. À ce moment-là, quand on dit « je suis pas capable », Dieu dit « finalement j'ai un candidat, parce que je vais pouvoir couler à travers lui ». Mais si quelqu'un dit « ben, j'ai fait la formation, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai quand même beaucoup d'expérience, je pense que Dieu m'a donné quand même la sagesse, j'ai quand même un talent, j'ai ci, j'ai ça », si on peut s'appuyer sur nos propres forces, ça n'arrivera pas à travers nous. Parce que on va pouvoir quand même dire « oui ». J'ai vu des grandes choses, Dieu a fait des grandes choses, mais faut comprendre que j'avais mon rôle à jouer quand même assez important, donc... Et Dieu ne veut pas ça, Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Il fait grâce aux humbles. Si nous réalisons que nous sommes 100% dépendants de Dieu, nous allons voir la gloire de Dieu éclater, mais nous devons être un peuple humble. C'est ça que Dieu est en train de nous dire. Et Dieu est en train de nous dire aujourd'hui, si vous croyez dans la vision, puis vous dites, oui, je me suis engagé la semaine passée, et j'ai dit, oui, je veux payer le prix. Je veux donner ma vie pour cette mission, cette vision de rejoindre la francophonie. Ne pensez pas que Dieu ne vous choisit pas. Ne pensez pas que vous êtes trop petit, comme Gédéon a pensé qu'il était trop petit. Non. Si nous avons lui, nous avons tout. Bon, comment est-ce qu'il a fait maintenant? OK, nous comprenons ici. Comment est-ce qu'il a fait maintenant pour répondre à l'appel? Une des choses que nous voyons dans le verset 30, on ne lira pas ensemble, mais Gédéon a pris une trompette et puis l'Esprit du Seigneur est venu sur lui. Quand il a appelé les gens en Israël avec la trompette, il y a 32 000 personnes qui se sont pointées pour livrer le combat. Imaginez, quand le Saint-Esprit vient sur quelqu'un, la foule peut venir. La foule peut venir. Mais là, on va voir ici d'autres choses super importantes. Au verset 25, chapitre 6, verset 25. Le premier pas vers la liberté d'Israël, premier pas, c'était la réforme spirituelle. Avez-vous déjà entendu parler de la réforme spirituelle, enfant de Dieu? On a enseigné des prédications, la réforme. La dernière réforme, vous pourrez aller sur le site web de l'Église. Vous allez voir que Dieu nous a donné un mandat de réformer des choses encore de Christ. Amen. Ben, vous pouvez voir, on est dans l'agenda du Saint-Esprit parce que Dieu travaille comme ça. Le premier pas vers la liberté, c'est la réforme spirituelle. Au verset 25, ça dit, « La nuit suivante, l'Éternel dit à Gédéon, « Prends le jeune taureau, taureau de ton père, et le second, celui de 7 ans, démolis l'autel de Baal qui est à ton père. » Imaginez, Gédéon, même son père, c'est un idolâtre. Il dit, « Détruis l'autel de Baal qui est à ton père et abat le poteau sacré qui est dressé à côté. » Puis, tu bâtiras un autel bien aménagé à l'Éternel, ton Dieu, au sommet de cette colline. Tu prendras le second taureau et tu l'offriras en holocauste en utilisant comme combustible le bois du poteau sacré que tu auras abattu. Ici, le Seigneur Dieu, il dit, je dois prendre la place de Baal. Baal, faut le tasser d'Israël. Amen. Et peut-être aujourd'hui, Dieu vous dit, vous devez enlever l'idolâtrie de vos vies. Mais vous dites, oui, mais Seigneur, ou plutôt pasteur, vous dites, pasteur, mais moi, là, j'en ai pas d'idolâtrie. OK, mais demandez au Seigneur s'il y a des choses qui passent avant lui. Peut-être le Seigneur, il est en train de dire, je cherche des soldats, mais des soldats disponibles qui veulent chercher ma face. Peut-être c'est juste ça. Les adorateurs de Baal se réveillent le matin, parce que notre ami Gédéon, il a fait ça la nuit, parce qu'il avait peur. Il avait peur, donc, OK, Seigneur, je vais obéir, puis il va faire ça la nuit. Il coupe le poteau sacré, il coupe ça, puis là, il fait tout ce que le Seigneur lui dit de faire, mais il fait ça de nuit. Donc, le matin, les adorateurs de Baal se réveillent, et puis sont furieux. « Hey, c'est qui a tué notre Dieu? C'est qui a détruit notre Dieu? » Hey, puis là, finalement, on apprend que c'est Gédéon. « Hey, Gédéon, ça n'a pas fin là. Il est venu faire une réforme ici. » Les gens n'aimaient pas Gédéon, tout d'un coup. Et là, ils sont allés voir le père de Gédéon, puis ils ont dit, « Hey, sors ton fils, si on veut le tuer, là. » Puis là, le père de Gédéon, il dit, « Comment ça, tu veux le tuer? Votre Dieu, Baal, si c'est vraiment un Dieu, pensez-vous qu'il n'est pas capable de se défendre? Voyons, là, s'il est Dieu, laissez-le faire, il va se défendre, ce Dieu-là. » Là, ils ont dit, « Ouais, tant qu'à ça, là, c'est pas mal vrai. » Donc, Gédéon a été épargné. Le deuxième pas. Donc, le premier pas, c'était la réforme spirituelle. Le deuxième pas vers la liberté, c'était la sélection des soldats. La sélection des soldats. Dans Juges 6, verset 34, plutôt j'ai dit tantôt verset 30, c'était la menace de mort. Au verset 34, c'était l'appel des troupes. Et Gédéon, revêtu de l'esprit, sonna de la trompette. Et là, nous voyons 32 000 personnes se pointer. Qu'est-ce qui se passe? Bon, maintenant au chapitre 7, verset 1. Ça nous parle que Gédéon se met en route avec toutes ses troupes. Au verset 2, je vais lire ça avec vous. « L'Éternel dit à Gédéon, ton armée est trop nombreuse. » Combien de fois pensez-vous que l'armée canadienne dit « Oh, notre armée est trop nombreuse. On est vraiment trop nombreux, ça se peut pas, là. » Habituellement, on voit ça comme une chose positive, n'est-ce pas, d'avoir beaucoup de soldats, avoir une grosse armée. D'habitude, c'est un positif. Mais je peux vous dire que les foules n'impressionnent pas Dieu. Ça vient de vous choquer. Vous êtes surpris tout d'un coup. Oh! Les foules n'impressionnent pas Dieu. Il n'est pas impressionné, lui, Dieu, par les foules. Nous, on est impressionnés. Ce qui impressionne Dieu, c'est la foi. La foi impressionne Dieu. Donc ici, L'Éternel dit à Gédéon, « Ton armée est trop nombreuse pour que je te donne la victoire sur les Madianites. Sinon, les Israélites s'en vantèrent à mes dépens en pensant que c'est par leur propre force qu'ils se sont délivrés. » Verset 3, « Fais donc la proclamation suivante à tes troupes. » Remarquez bien, moi là, quand j'ai médité sur ce texte-là, j'ai commencé à être super béni. Savez-vous pourquoi? Ici, on comprend des leçons, les priorités de Dieu. Les priorités de Dieu, c'est la foi, vous allez voir. Parce que sans la foi, c'est impossible de lui plaire, de lui être agréable. Ici, nous voyons la chose la plus importante pour Dieu, c'est pas une grande compagnie de milliers de personnes. C'est pas ça qui compte pour Dieu. On peut avoir 32 000 personnes, mais si c'est une gang de peureux, c'est une gang de suiveux, ça ne vaut pas grand-chose aux yeux de Dieu. Oui, les âmes sont importantes, mais leur participation dans l'œuvre ne vaut pas grand-chose. Remarquez ici. Qui d'entre vous a peur au point de trembler? Qui s'éloigne du mont Galaad et rentre chez lui? Donc ici, Gédéon, Dieu lui dit ça. Il lui dit, qui d'entre vous a peur? Il parle aux 32 000 personnes, les soldats là, sont peut-être tous musclés, ils sont bien habillés, sont impressionnants. C'est qui d'entre vous les peureux? Sur 32 000, il y en a 22 000 qui disparaissent. 22 000 hommes de son armée s'en allèrent, et il en resta 10 000. Verset 4, « Mais l'Éternel dit à Gédéon, les troupes sont encore trop nombreuses. » Parce que vous savez, des fois, il y en a des gens qui disent, « Ben, j'ai pas peur. » Il y en a 10 000, « Ben, on n'a pas peur. » Puis Dieu, il sait vrai, lui. « Fais-le descendre au bord du torrent, et là, je les trierai pour toi. Ceux que je désignerai pour t'accompagner iront avec toi, mais ceux dont je te dirai qu'ils ne doivent pas t'accompagner n'iront pas avec toi. » C'est clair? Je vais faire le tri. C'était 10 000, là? Check bien, je vais faire le tri. Verset 5. « Gédéon fit descendre ses hommes au bord du torrent, et l'Éternel lui dit, « Tu mettras d'un côté tous ceux qui lapent l'eau avec la langue comme les chiens. » Oh, c'est classique, hein? « Et de l'autre côté, ceux qui s'agenouillent pour boire. » Donc, il y en a qui se mettent à genoux pour boire et ils vont littéralement comme boire comme d'une champleuse. Combien d'entre vous, vous buvez chez vous, là, où il y a la champleuse, puis vous faites... Comme ça. Il y en a comme ça qui ne prennent pas de verre. Hein? Comme ça. Prenez pas le temps. Ça. Bon, là, ici, Dieu dit à Gédéon, check bien ça. Il va y avoir une gang, là, ceux qui vont boire directement la face dans l'eau. Ça, c'est une compagnie. Mais il y a une autre compagnie. Il y en a qui vont prendre l'eau et vont faire comme ça. Comme des chiens. OK? Il y a deux clans. Wow! Quelle révélation spirituelle! Verset 6, chapitre 7. Il y a eu 300 hommes qui prirent de l'eau dans leurs mains pour la porter à leur bouche et la laper. Et tous les autres s'agenouillèrent pour boire. L'Éternel dit à Gédéon, c'est avec ces 300 hommes qui ont lapé dans leurs mains que je vous délivrerai des Madianites en vous donnant la victoire sur eux, que tous les autres rentrent chez eux. Sur 10 000, Dieu a enlevé 9700 personnes de trop. 9700 de trop. Vous savez, Dieu recherche un peuple de foi. Un peuple de foi. Et vous savez, la crainte, on a déjà parlé ici à l'église, on a parlé de Job qui avait été dans la crainte. Ce que je crains, c'est ce qui m'atteint. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Ici, nous voyons aussi dans Genèse 3:10 que les premières paroles que Adam a prononcées lors de la chute, les premières paroles, si vous les écrivez ça, Genèse 3:10, Adam a déclaré de sa bouche, « J'ai eu peur. » Le premier vocabulaire de l'être humain que péché, le premier vocabulaire du pécheur, c'est la peur. La peur dans sa bouche. La peur qui sortait. Ici, Dieu, il fait le tri. 9700 s'en vont chez eux. Maintenant, il reste 300 personnes pour gagner la victoire sur 135 000 personnes. L'ennemi, 135 000 personnes. Et Gédéon est avec sa gang de 300. C'est impressionnant, ça, n'est-ce pas? Vous dites, oh, ben nous autres, on est une gang de foi, 300 personnes. Moi, je suis comme la gang qui ont besoin des coupes. OK. Troisième point. En passant, ceux-là qui étaient couchés la face dans l'eau, là, c'est pas des gens vigilants. C'est des gens qui étaient juste, ils pouvaient avoir leur tête dans l'eau, pas de problème. Mais il y en avait d'autres qui ont fait comme ça. On reste vigilant. quand on a une coupe. Troisième point. Le troisième pas vers la liberté du peuple d'Israël, des Madianites. La fortification de la foi. Dieu a fait le tri. Prochaine chose qui est faite maintenant, OK, là, j'ai besoin de fortifier mon homme Gédéon. Parce que Dieu réalisait, c'est un homme, sa foi n'est pas full forte, OK, mais je vais fortifier sa foi pour qu'il puisse livrer le combat. Dieu n'est pas fou. Dieu nous envoie dans des endroits où notre foi peut être fortifiée pour répondre à l'appel de Dieu. Savez-vous ça? Dieu nous envoie dans un endroit où notre foi peut être fortifiée pour répondre à l'appel de Dieu. C'est pour ça que c'est important d'être à la place où Dieu nous appelle, pour que notre foi soit fortifiée pour répondre à son appel. Amen. Je continue. Donc, verset 9 du 7e chapitre. « L'Éternel dit à Gédéon pendant la nuit, « Lève-toi, descends au camp, car j'ai livré entre tes mains. » Car je l'ai livré entre tes mains. Verset 10. Là, Dieu parle à Gédéon. « Si tu crains de descendre, descends-y avec Pura, ton serviteur. » Voyez-vous, si tu crains, si tu as peur, là, mon homme Gédéon, vas-y avec ton serviteur, M. Pura. OK? Donc déjà, là, Dieu est gentil quand même. Hein? Il prend le temps de nous former. Verset 11, « Tu écouteras ce qu'ils diront, et après cela, tes mains seront fortifiées. Descends donc au camp. » Ils descendirent avec Pura. Gédéon descendit avec Pura. Ça veut dire quoi, ça, au juste? Ça veut dire qu'il avait peur. Sinon, il aurait été tout seul. Donc, c'est la preuve que c'est un peureux. Il descendit avec Pura, son serviteur, jusqu'aux avant-postes du camp. Au verset 12, Madian, Amalek et tous les fils de l'Orient étaient répandus dans la vallée comme une multitude de sauterelles, 135 000 pour être exact, plein de sauterelles. Et leurs chameaux étaient innombrables comme le sable qui est sur le bord de la mer. Gédéon arriva. Et voici un homme dans le camp de l'ennemi. Il racontait à son camarade un songe. Là, je vais vous lire dans la Bible, Parole de vie. Là, il y en a un des ennemis, un des Madianites. Il va raconter le songe qu'il a eu. Et là, ça s'adonne que par coïncidence, Gédéon, on dit ça par coïncidence, mais c'était voulu de Dieu, que Gédéon était pour entendre le rêve de son ennemi. Écoutez bien ceci. Tiens, l'ennemi dit, tiens, je viens de faire un rêve. J'ai vu un pain d'orge qui roulait dans notre camp. Il est venu cogner une tente. Il l'a renversée et elle est tombée. Imaginez, une tente, du pain qui roule, qui écrase une tente. Et puis là, finalement, waouh, c'est la défaite. Imaginez, waouh, quelle sorte de pain qui s'est fait. C'est un pain gigantesque, une grosse roche. Non, c'est comme du pain russe, là. C'est pas mangeable, là, dur, là. Non, c'était pas ça. C'était pas un gros pain gigantesque, là. C'était un pain. Ça dit, je viens de faire un rêve, j'ai vu un pain d'orge. Savez-vous, le pain d'orge, c'était le pain des gens les plus pauvres. Des gens les plus pauvres. Et Gédéon, comme vous savez, il était le plus petit de sa famille, et sa famille était la plus petite famille dans la tribu, c'était les pauvres. Et pourtant, Dieu l'a choisi. Imaginez ça. Pourtant, Dieu l'a choisi. J'ai vu un pain d'orge qui roulait dans notre camp. Il est venu cogner une tente. Combien de personnes ici, vous avez déjà vu un pain rouler sur une tente et la faire tomber? Moi, je n'ai jamais vu ça. Il l'a renversé et elle est tombée. Faites attention quand vous promenez avec vos sandwichs en camping. C'est jamais qu'est-ce que ça peut faire. Verset 14. Son camarade répondit et dit, ce n'est pas autre chose que l'épée de Gédéon, fils de Joas, homme d'Israël. Dieu a livré entre ses mains Madian et tout le camp. Et quelle interprétation? Il vient de réaliser, Dieu a livré entre ses mains Madian et tout le camp. On est cuit. Il a compris tout de suite, là, il y avait l'interprétation du rêve que c'était Gédéon qui s'en est attaqué. Et là, ça donne que Gédéon est là pour entendre le rapport de l'ennemi. La foi, là, n'était même pas dans sa bouche encore. Avez-vous remarqué? Pas vraiment, là. Qu'est-ce qu'on entend? C'est l'ennemi qui dit le bon rapport. Remarquable. Voyez-vous, c'était important que Gédéon entende ces paroles-là. Et Dieu l'a envoyé dans une mission. Dieu aurait pu donner la victoire à Gédéon comme ça, sans l'envoyer là, mais vous savez, d'une certaine façon, non. Parce qu'avec la crainte dans le combat, ça ne marche pas. Comprenez-vous? Si Dieu nous appelle à faire quelque chose et nous avons de la crainte en nous, le plan de Dieu est neutralisé. Comprenez cela. C'est important. Dieu a pris la peine de l'envoyer pour entendre le discours du rêve de son ennemi, pour que sa foi soit bâtie. Parce que c'est important. La foi, c'est une chose importante. Verset 15. « Lorsque Gédéon eut entendu le récit du rêve et son interprétation, il se prosterna, puis il retourna au camp d'Israël et cria, « Tout le monde debout, car l'Éternel vous donne la victoire sur l'armée de Madian. » Tout le monde debout. Ah ouais, Dieu nous donne la victoire. Là, il avait la foi, parce qu'il avait entendu. Et c'est ça que Dieu est en train de nous dire. Tout le monde debout. Dieu nous donne la victoire pour le peuple francophone. Tout le monde debout. Si on peut croire, si on regarde à nos comptes de banque, si on regarde à notre puissance personnelle, si on regarde à notre intellect, notre onction, toutes les choses, qu'est-ce qui manque? Si on regarde à ce qui nous manque, on va être découragé. Mais si on regarde au Seigneur, on dit, « Seigneur, tu es grand, tu es tout-puissant, et à cause de toi, nous sommes majoritaires. » Amen. Gloire à Dieu. Ici, finalement, il dit, « Tout le monde debout, car l'Éternel vous donne la victoire sur l'armée de Madian. » Quatrième pas maintenant, vers la liberté. Il devait adopter la stratégie divine et pas la logique humaine. Écoutez bien ceci au verset 16, je vais vous lire dans français courant. Vous êtes encore là avec moi, vous ne dormez pas encore. Gédéon divisa les 300 hommes. Parce que 300 quand même, c'est beaucoup, hein? Donc, il devait diviser les 300 hommes en trois groupes. Il remit à chaque homme une trompette. Ici, on peut voir la trompette, ça symbolise la parole de Dieu. Quand nous prêchons la parole, nous sonnons la trompette. Il remit à chaque homme une trompette, pas une grenade, là, une cruche vide. Imaginez, une cruche vide. Une cruche. Ça vous fait penser à quoi, ça, une cruche? Il y a des gens, des fois, j'entends ça au Québec, je ne sais même pas ce que ça veut dire au juste, mais il y en a des fois qui disent, c'est une cruche. C'est quoi, ça veut dire une folle, ça? Elle ne comprend pas grand-chose. Bon. Une cruche vide. Savez-vous, une cruche faite de terre, ça représente quoi au juste? Ça représente l'être humain, ça. Mais vide. Dieu avait besoin des gens qui réalisaient qu'ils étaient vides sans lui. Une cruche vide et une torche à placer dans la cruche. Ce que nous avons besoin, c'est cette torche, cette lampe, ce feu de Dieu en nous. On voit, c'est tout symbolique. Si Dieu, il fait rien pour rien. Verset 17. Ensuite, il leur donna cet ordre. Vous regarderez de mon côté. Ça, c'est Gédéon qui parle. Vous regarderez de mon côté et vous agirez exactement comme moi dès que je serai arrivé à la limite du camp. Quand je sonnerai de la trompette, ainsi que les hommes qui m'accompagnent, vous sonnerez également de la trompette tout autour du camp et vous crierez pour le Seigneur et pour Gédéon. OK? C'est ça. C'est... Imaginez. Je vous disais, on s'en va à la guerre. On est 300 et on a 135 000 personnes contre nous. Et notre stratégie, c'est pas d'aller s'acheter des chars d'assaut, des avions, des bombes, tout ça. C'est on va arriver avec des trompettes, on va prendre des cruches et des lampes. Et je vous dis, on va gagner. Ça prend du monde un peu innocent. Ça prend du monde assez vendu à l'idée. C'est vrai, pensez-y. 135 000 personnes. Là, vous allez dire, il y en a qui vont dire, pasteur, est-ce que je peux te rencontrer? C'est parce que je trouve que ça ne fait pas beaucoup de sens, là. Savez-vous, le chemin de Dieu ne fait pas souvent de sens. Ça prend une compagnie de foi qui croit dans la parole de Dieu. Ils ont adopté la stratégie divine qui était humainement illogique. Amen. La guerre. Finalement, on arrive à la guerre. Verset 19, chapitre 7, verset 19. Peu avant minuit. À minuit, est-ce qu'il fait clair ici au Canada? Non. Il fait noir. Donc, peu avant minuit, Gédéon et son groupe de 100 hommes arrivèrent à la limite du camp. On venait de remplacer les sentinelles. Donc, dans Parole de vie, c'est les gardiens du camp, gardiens de nuit, là. On venait de les remplacer. Ils sonnèrent de la trompette et brisèrent les cruches qu'ils portaient. Ah, ça fait du bruit, ça, les trompettes. Quelque chose comme ça. Et on casse les cruches. Les deux autres groupes en firent autant. Ils saisissent tous les torches à la main gauche et les trompettes de la main droite et crièrent à l'assaut ou à l'attaque pour le Seigneur et pour Gédéon. Et là, on a les gens dans le camp, les Madianites qui entendent ça, toutes sortes de bruits, des trompettes puis les lumières, plein de belles lampes comme ça là, qui éclairent, puis à l'attaque. Combien de personnes imaginaient les Madianites qui pouvaient imaginer qu'un petit groupe comme ça se pointerait là? Non, ils s'imaginaient, il y a une foule de personnes qui oserait affronter 135 000 personnes? C'est une compagnie assez nombreuse, n'est-ce pas? C'est une compagnie nombreuse qui va aller affronter, mais pas le peuple de Dieu nécessairement. 21. Il se tenait autour du camp, chacun à sa place. Mais dans le camp de l'ennemi, il y avait la confusion. Tout le monde se mit à courir, à crier, à prendre la fuite. Tout le monde commence à courir partout, dans toutes les directions. C'est la confusion. Pourquoi? Parce que c'est un peuple de crainte. C'est un peuple qui avait peur. Hey, on se fait attaquer, là, tout le monde capote. Tout le monde a peur. Verset 22. Pendant que les 300 hommes sonnaient de la trompette, le Seigneur fit s'entretuer les Madianites dans tout le camp. Les gens s'entretuaient. Les gens s'entretuaient. Et le peuple de Dieu, ils ont seulement obéi au Seigneur. Ils ont seulement obéi, ils ont sonné de la trompette, ils ont cassé des cruches, ils ont allumé des flashlights. C'était tout. C'était tout ce que Dieu demandait. Imaginez. Ce que Dieu est en train de nous dire aujourd'hui. Obéissons. Obéissons à ce que le Seigneur va nous dire. Sonnons de la trompette. Continuons à prêcher la parole. Laissons Dieu combattre pour nous dans cette affaire. Peu importe les défis dans vos vies personnelles, on parle ici, on applique à notre mission d'Église, que même si c'est impossible selon l'être humain, c'est possible pour Dieu. Mais il y a des choses des fois impossibles dans vos vies. Il y a certaines personnes d'entre vous, vous dites, « Ben moi, je suis devant des impossibilités. » Ben félicitations, ça veut dire que Dieu peut intervenir dans votre vie. Quand c'est impossible pour vous, c'est possible pour Dieu. Peut-être certains d'entre vous, vous luttez. Peut-être c'est une guérison physique que vous avez besoin. Ça fait longtemps que vous êtes malade. Vous dites, c'est impossible que je sois guéri. Les médecins l'ont dit. Mais Dieu dit, c'est possible pour moi. Je suis capable de vous guérir. Il y en a d'autres, vous êtes ici peut-être. Vous êtes liés par toutes sortes de problèmes et de péchés secrets. Et vous dites, ça fait longtemps, je veux être libéré. Ou peut-être, il y en a certains d'entre vous, vous êtes contents de vivre dans vos péchés. Et Dieu aujourd'hui vous dit, l'heure est arrivée de faire du ménage et de servir Dieu, parce qu'il y a un coût à votre péché. Il y a une jouissance pour un temps au péché, mais après il y a des conséquences éternelles. Ne soyons pas stupides, enfants de Dieu. Pensez-y, si vous vivez 120 ans dans le péché, pour vivre éternellement dans les flammes de l'enfer, c'est stupide de faire un échange comme ça, enfants de Dieu. Pensez-y. Des myriades d'années, ça ne finit pas, vous êtes là en enfer, en train de brûler en enfer parce que vous avez choisi d'échanger votre âme. 120 ans, admettons, de péché pour brûler éternellement, séparé de Dieu. Dieu nous dit, aujourd'hui c'est le jour du salut. Si vous êtes détourné de Dieu, si vous avez dit je vais faire à ma façon au lieu de la façon de Dieu, si vous avez dit, moi, je choisis de marcher dans le péché au lieu de marcher avec Dieu, aujourd'hui, Dieu est rempli de compassion. Dieu est rempli de compassion pour vous et il veut vous sauver. Il veut vous libérer. Il a tout fait pour vous libérer. Mais vous savez, dans le corps de Christ, c'est le temps qu'on revienne à cette place d'une crainte de Dieu. Et on va dire, moi, je vais servir le Seigneur. Coûte que coûte, je veux marcher dans la sainteté. Vous savez, je peux vous dire, c'est possible de marcher dans la sainteté en 2011. C'est possible, enfant de Dieu. Oui, c'est possible. Il y en a qui m'ont dit, ouais, mais j'ai entendu ça, des chrétiens qui disaient ça. Ben, mon fils, il sort avec une fille, ils sont chrétiens, mais bon, ils couchent ensemble, on sait que tout le monde font ça de nos jours. Oui, oui, les gens m'ont dit ça. Ben, tu sais, de nos jours, on comprend ça, hein. Non, je comprends pas ça, puis Dieu ne comprend pas ça non plus. Savez-vous, moi, je peux vous dire, Dieu est capable de vous garder pur. Puis je parle à mes amis sur l'Internet, Dieu est capable de vous garder pur. Moi, je suis un témoin aujourd'hui. Moi, là, je me suis gardé pur pour ma femme. J'en ai une femme. C'est possible. Mais t'es démodé. Oui, je suis démodé. Mais c'est possible de rester dans la pureté selon Dieu. C'est possible. Dieu veut qu'on puisse être cette compagnie de foi, cette compagnie de sainteté. Et si on dérange du monde, que ceux qui sont dérangés qui partent. Au nom de Jésus. On ne veut pas 32 000 personnes qui ne marchent pas avec Dieu. Nous voulons peut-être 300 qui sont engagés, qui sont fidèles, qui ont une crainte de Dieu et qui disent « c'est possible de marcher avec Dieu dans la sainteté ». Ça, c'est mon cœur. Il y a une sœur qui me dit « peut-être notre église ne sera jamais bien grande parce que nos messages sont difficiles ». Puis, ça, savez-vous, moi là, Dieu, qu'est-ce qu'il m'a montré? C'est que Dieu s'apprête à faire quelque chose de tellement grand que l'Église va être très grande. Mais je pense qu'on va vivre une différence. Puis c'est pas gloire à nous. C'est pas gloire à nous. Mais la raison pourquoi nous allons vivre les prodiges, les signes et les miracles, que Gédéon se posait la question, pourquoi on les vit pas, nous autres? Pourquoi on les voit pas? Parce qu'il y avait la rébellion. Mais je crois qu'il y a un peuple vendu. Je crois un peuple qui est engagé avec Dieu, qui dit, moi, je veux marcher fidèlement au Seigneur Jésus. J'ai une crainte de Dieu. J'ai une crainte de Dieu. Je vais marcher dans la sainteté. Je vais marcher dans la foi. Je vais veiller. Je vais m'empêcher de marcher dans le naturel de la crainte. Il y a la crainte qui s'infiltre constamment dans le discours des gens. Les gens parlent la crainte. Les gens parlent, ils prononcent des paroles de crainte. Ils ne réalisent pas que leur crainte, cette crainte-là, neutralise leur vie. Ils les rendent impuissants. Et puis là, ils se font ravager par Madian. Ils se font ravager par Satan dans leur vie constamment. Puis comment ça? C'est parce que vous marchez dans la crainte. Vous devez choisir de marcher dans la foi. Et la foi, ce n'est pas un feeling, ce n'est pas un sentiment. La foi, c'est une décision. Je place ma confiance entière en Jésus et je vais obéir même quand ça ne fait pas du sens. Aujourd'hui, si on dit, mais oui, je crois. Maintenant, je réalise que Dieu peut se servir de quelqu'un comme Gédéon. Ça veut dire que Dieu peut se servir d'une personne comme moi. Et on voit la grâce du Seigneur. Nous voyons comment le Seigneur était gracieux, puis il a même permis une petite séance d'encouragement pour qu'il entende le rêve de l'ennemi. Vous voyez comment Dieu est parfait, il est merveilleux, notre Dieu. Il a tout pris les soins, puis il a dit, regarde là, mon petit Gédéon, là, je vais t'envoyer. Il n'y a pas dit nécessairement, mais il s'est tout organisé pour que Gédéon soit encouragé. Dieu est bon, Dieu, il veut voir notre liberté, il veut nous bâtir, toutes ces choses-là. Mais ça prend ensuite notre oui, parce que Dieu peut tout faire pour nous. Mais si on peut juste dire, Seigneur, je réalise que sans toi, je ne suis rien. Ma prière, je peux vous dire, je priais hier soir, je disais, Seigneur, sans toi, je suis rien. Je ne suis pas capable de rien faire sans toi. J'ai désespérément besoin de toi, Seigneur Dieu. Je suis désespéré aujourd'hui. Je ne sais pas si vous saviez, mais vous avez un pasteur désespéré. Désespérément en besoin de plus de la présence de Dieu. Je ne suis pas satisfait, enfant de Dieu. On a besoin plus. On a besoin d'être plus à sa recherche. Puis je le sais, ce que Dieu a promis qu'il ferait avec cette compagnie, avec cette famille, il va l'accomplir. Mais nous décidons ensemble. Aujourd'hui, là, si vous, pendant que j'ai parlé, pendant que toutes les têtes sont penchées, je ne vais pas vous humilier. L'objectif, ce n'est pas de vous humilier. Mais aujourd'hui, si vous souhaitez être délivré, peut-être vous êtes pris avec des péchés, peut-être vous êtes pris avec des choses qui vous ont gardé dans ce royaume d'Israël qui était comme ravagé, vous êtes pris dans ces problèmes-là et vous voulez vous en sortir. Dieu a besoin de votre volonté. Je peux vous dire, il n'y a personne que Dieu va laisser enchaîner par Satan. Dieu ne passe à côté de personne. Si vous voulez obéir à Dieu, si vous voulez lui dire, Seigneur, je te donne ma vie, je te demande pardon pour mes péchés, aujourd'hui, je vous dis, vous allez être libérés. Vous allez être libérés des oppressions de l'ennemi. Vous serez libérés en même temps de l'esclavage de Satan à tout jamais. Mais vous devez dire, Seigneur, je me repens, je me tourne vers toi. Je me tourne vers toi aujourd'hui. J'abandonne mon péché. Si c'est vous aujourd'hui, puis vous ne voulez pas faire à votre tête, vous voulez faire à sa tête, et dites, Seigneur, je me soumets à toi maintenant. Je te demande pardon. Je vais vous inviter, c'est un temps solennel, pendant que toutes les têtes sont penchées, en levant la main, dites, je veux être libre aujourd'hui. En levant la main, vous dites, je veux être libre du péché aujourd'hui. Je veux être libre en levant la main. Merci. Gloire à Dieu. Je vais prier pour vous maintenant, tous ceux qui ont levé la main. Gloire à Dieu. Père éternel, je viens devant toi. Seigneur, tu vois mes frères et mes sœurs qui ont cette crainte de toi, qui veulent marcher dans la sainteté, qui disent, Seigneur, je te demande pardon d'avoir choisi autre chose que toi. Je ne veux plus marcher dans l'idolâtrie. Et pour mes amis à la radio et sur l'Internet, aujourd'hui, je prie pour ces mêmes personnes qui sont là, parce qu'il n'y a pas de distance dans la prière. Et aujourd'hui, Seigneur Dieu, je te remercie pour ta grâce. Je te remercie pour ton pardon. Et aujourd'hui, par l'autorité que tu nous donnes, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je viens contre tout esprit d'esclavage au nom de Jésus et je décrète la liberté maintenant au nom de Jésus et que tout le peuple de Dieu acclame le Seigneur pour la liberté. Amen. Amen. On te loue, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Dieu, pour la liberté que tu nous donnes. Merci, Seigneur Jésus. Nous te louons. Est-ce qu'on peut se lever ce matin et le louer, l'acclamer? On n'a pas fini. Il nous a racheté un grand prix. Est-ce qu'on peut le louer encore, l'acclamer et le célébrer ce matin? Oh, gloire à toi, Seigneur Dieu. Nous te louons, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, parce que nous ne sommes plus esclaves, mais nous sommes libres en toi et nous répondons à ton appel. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Si vous trouvez que j'ai été un petit peu difficile le matin, je m'excuse pas. Alléluia. Est-ce qu'on, ce matin, est-ce qu'on peut être unis dans la foi? On va faire des décrets ce matin. On va déranger le royaume de l'ennemi. Les Madianites, êtes-vous prêts ce matin? Êtes-vous prêts ce matin? On va le dire dans l'atmosphère spirituelle. Puis on est en train d'avertir l'ennemi qu'on prend notre place de plus en plus. On va dire à l'ennemi, quand je vais dire 1, 2, 3, je vais vous inviter à dire « Je choisis la foi et comme des personnes convaincues de votre affaire. » Donc, « Je choisis la foi » à 1, 2, 3. 1, 2, 3. « Je choisis la foi au nom de Jésus. » Amen. Donc, il y a peut-être encore des problèmes que vous voyez. Il y a peut-être encore des choses où vous dites « Oui, mais il y a ça, puis il y a ci. » Mais je choisis la foi aujourd'hui au nom de Jésus. Je l'ai choisi. J'abandonnerai jamais la foi. Jamais. Jamais. Je vais marcher jusqu'au bout, jusqu'à temps que j'ai la victoire au nom de Jésus. Amen. Donc, je prie pour vous, Seigneur, je prie pour mes frères, mes sœurs. Merci pour ton amour dans nos vies. Merci, Seigneur, pour ta présence. Merci parce que nous sommes dans la majorité avec toi. Et Seigneur, je décrète ton shalom sur chaque tête. Rien ne manquera, rien de brisé. Au nom de Jésus. Amen.
Merci d'avoir écouté ce message de victoire. Nous espérons qu'il a été une bénédiction pour votre vie spirituelle. Pour de plus amples informations sur le pasteur Joel Spinks ou encore sur l'Église de la Victoire du Québec, visitez le www.evqmedia.com. L'Église de la Victoire du Québec, pour l'amour de la francophonie.